Marc Lévy, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous retrouve pour L'horizon à l'envers chez Robert Laffont, Versilio. C'est le 17e, hein, c'est ça, 17e roman?
Oui, c'est le 17e roman.
Je dirais que pour commencer, pour remonter à la source de ce roman, il faut d'abord aller à sa fin, à la note de l'auteur et l'hommage que vous rendez à Kim Suozzi et on dit comment, Josh ou Josh?
Josh
Schisler. Je vous cite, dont les vies ont inspiré cette histoire.
Oui, c'est vrai. C'est en lisant l'histoire de ce couple dans le New York Times et en voyant leurs photos que l'envie d'écrire ce roman est née. De façon assez forte, puisque j'étais en train d'en écrire un autre, figurez-vous, que j'avais commencé depuis un mois. Et puis un jour, j'ai lu cet article et j'ai vu la photo de ce couple.
Et alors, qu'est-il arrivé à ce couple? Que disait cet article?
Bon, l'article racontait l'histoire de cette femme qui atteint d'une maladie incurable, de cette jeune femme qui atteint d'une maladie incurable et vivant une histoire d'amour folle avec son compagnon, a décidé de se faire cryogéniser dans l'espoir d'être réveillée un jour où sa maladie serait guérissable. Et j'ai trouvé que, cette idée d'hibernatus, entre guillemets 3.0, vous voyez, était absolument romanesque, passionnante. Et puis surtout, ça m'a donné envie immédiatement d'aller faire des recherches sur là où on en était. Parce qu'on entend beaucoup de choses sur les neurosciences, sur le transhumanisme, sur le rallongement de la durée de la vie, mais surtout sur une question que je trouve passionnante, qui est celle de la façon dont aujourd'hui l'homme se rapproche de plus en plus d'une certaine perception de ce qu'est notre conscience, de ce qui fait de nous des êtres humains. On est le seul animal, a priori, doté d'une intelligence qui sait dès le départ que notre vie est limitée dans le temps. Et on vit quand même avec ça. Et cette notion du temps conditionne finalement toute notre existence, une grande partie de nos choix. Et je crois que notre vie est très liée à cette temporalité. Et donc cette question, que se passerait-il de nos vies si tout à coup nous n'avions plus cette échéance? Mais enfin voilà, donc cette histoire, je l'ai trouvée romanesque, passionnante. Et puis surtout, il y a eu je ne sais pas pourquoi, je me suis lié affectivement avec ce couple que je ne connais pas. Et ça m'a donné l'étincelle d'une histoire qui n'a rien à voir avec la leur, mais qui est celle de ce roman.
On l'a compris, c'est un roman aussi qui réfléchit sur les possibilités de la science. Et on sent que c'est un sujet qui vous intéresse, surtout dans cette période où les recherches avancent très très vite.
C'est vrai que ce roman, c'est un roman d'aventure scientifique quelque part. Il y a énormément de choses dont je parle qui sont des inventions qui sont en cours de développement. On parle beaucoup plus des mauvaises nouvelles que des bonnes nouvelles. Et j'avais très envie de mettre au cœur de ce roman le travail des chercheurs qui ont fait des progrès et des avancées incroyables et finalement qui sont incroyablement porteuses d'espoir. Donc, je dirais que 80% de ce que je raconte dans le livre est vrai et semble appartenir au futur, alors qu'en fait, c'est un futur très proche, puisque ce sont des choses en cours de développement. Maintenant, il y a une question qui est au cœur du roman, c'est cette idée folle de l'un des personnages, du plus brillant de ces neuroscientifiques, qui a cette idée...
Luc.
Et Josh, les deux d'ailleurs, oui. Qui ont cette idée de se dire, on va établir une carte informatique des connexions du cerveau, comme il était fou à un moment donné d'imaginer un jour qu'on réussirait à établir une carte complète de l'ADN d'un être humain. Et une fois qu'on aura cette carte informatique, alors on devrait pouvoir transférer toute la mémoire et toute la conscience d'un être humain sur un serveur, sur un ordinateur, et pourquoi pas, si son corps est défaillant, réparer ce corps et pouvoir la retransférer à nouveau.
C'est-à-dire passer de l'organique à l'électronique et inversement.
Et revenir à l'organique, ouais. Exactement.
Mais là-dessus, il y a des avancées concrètes et des expériences ont été tentées. Vous êtes documenté, vous avez rencontré des spécialistes.
Alors il y a en ce moment des travaux, pas sur l'homme, parce qu'on n'en est pas encore là. Mais d'abord, il faut savoir, c'est incroyable, mais il y a vraiment un projet en Europe qui s'appelle Neuralink, qui travaille sur ce...
Comme dans votre livre, hein, puisque ce projet dans le roman Absolument. Est baptisé Neuralink.
Qui travaille à ce qu'on appelle au mappage du cerveau. Et ce projet a quand même été doté d'un fonds de 1 milliard d'euros. Ça n'est pas une utopie. Donc vous avez effectivement des dizaines et des dizaines de chercheurs qui en ce moment œuvrent à la façon de mapper le cerveau. Le jour où on a réussi à accomplir la carte des connexions du cerveau, le champ des possibles sera illimité. Or, il faut savoir que il fut un temps où les connaissances de l'homme doublaient à chaque siècle, puis à chaque demi-siècle. Aujourd'hui, elles doublent chaque année. Donc ça va très très vite. Donc Pour répondre à votre question précisément, bien sûr qu'on n'est pas aujourd'hui capable de transférer la conscience d'un être humain sur un serveur et pour la recharger dans un autre corps. Dire est-ce que cela sera possible dans le futur, vous aurez forcément des gens qui vont dire n'importe quoi. Mais moi, quand j'étais enfant et que je demandais est-ce qu'on pourra un jour transplanter un cœur, il y avait même des chirurgiens qui vous disaient n'importe quoi. Et pourtant, aujourd'hui, on le fait. Moi, j'y crois beaucoup.
Rien n'est plus imminent que l'impossible,
oui. Hein,
comme disait Victor Hugo,
absolument.
Qui est cité deux fois d'ailleurs, qui est en exergue du livre, et la phrase est reprononcée par l'un des personnages dans le livre. Alors, quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est que finalement, on s'aperçoit que les progrès, les projets futuristes, utopistes de la science vont peut-être finir par rejoindre les légendes et les mythes. Et ici, je trouve que c'est celui de la Belle au bois dormant, parce que c'est un peu ce qui va se passer avec Hope, on ne l'a pas encore cité, mais donc qui est votre héroïne.
Oui, il y a de ça, bien sûr. Mais j'avais très envie, au travers de ce roman, d'écrire une fiction qui soit, entre guillemets, un conte moderne. Simplement parce que c'est ce que j'aime le plus lire. Mais oui, c'est de ça, il y a de ça. En fait, il y a le destin de cette femme, il y a toute cette idée donc, qui est née dès le départ d'une femme qui va dormir pendant 40 ans et qui va se réveiller. Après, on ne peut pas en dire trop, parce que sinon, on va spoiler. Et voilà, et de tout ce que représente finalement cette promesse d'immortalité ou cette promesse de... Vous imaginez si tout à coup, on peut choisir l'époque à laquelle on va vivre, ce que ça implique.
Hope, elle vient d'où? Vous êtes allé la chercher où, ce magnifique personnage féminin?
Un petit peu probablement dans ce que m'a inspiré, dans la décharge d'émotion qui est née de la vision de cette photo de Kim. Mais je sais qu'elle a eu une présence très forte, hein, plus forte que dans n'importe quel de mes romans, je parle dans le rapport à l'écriture, hein, dans ce que j'ai vécu pendant l'écriture, et elle s'est imposée très vite, et elle a pris une place énorme, et elle ne me quittait pas, du matin au soir, et d'ailleurs toujours pas, mais vraiment, et elle a eu, c'était un personnage, vous voyez, il arrive qu'on écrive des histoires, et bon, il y a un climat qui se crée, il y a toujours un rapport qui s'établit entre celui qui écrit et les personnages qu'il écrit, forcément, puisqu'on l'en... On leur crée des dialogues, on les fait vivre, donc ils rentrent dans votre quotidien. Mais de façon assez étrange, il arrive assez rarement, mais parfois, que certains personnages prennent vraiment vie. C'est-à-dire que je ne parle pas d'une schizophrénie folle de l'écrivain qui saurait plus que sa marionnette est une marionnette, mais vraiment, le personnage prend vie, on a l'impression de le connaître pleinement. Probablement parce que c'était mon premier roman, j'avais eu ça avec l'héroïne de mon premier roman. Et là, je veux dire, j'aurais beaucoup de mal à imaginer qu'elle est un personnage de fiction, assez étrangement. C'est-à-dire qu'elle est tellement rentrée dans ma vie, j'ai tellement passé de temps avec elle, et en plus, je dis ça évidemment au second degré, mais je suis tellement amoureux d'elle, que amoureux comme peut l'être un meilleur ami, qu'elle est vraiment, je trouve que c'est une femme extraordinaire.
Alors, on est tous amoureux d'elle, et je dirais que c'est peut-être l'un de vos romans les plus émouvants, les plus chargés en émotions, parce que, bon, je disais tout à l'heure que d'un côté, c'est une espèce de version moderne de La Belle au bois dormant, c'est aussi un peu love story, c'est un mix des deux, donc un grand mélodrame romantique.
J'avais envie d'aller encore plus loin dans la sincérité de ce que l'on ressent pour les autres, du sentiment, c'est-à-dire à la fois... vous voyez, ce qui est finalement plus mémorable dans une histoire d'amour, c'est le moment où on a été fou amoureux et le moment où on a été terriblement malheureux. Et les deux sont des moments de vie qu'on n'oublie jamais. Et puis après, il y a, bien sûr, toute la beauté du quotidien et de ce que l'on vit avec quelqu'un. Mais il y a une part, chez beaucoup d'entre nous, d'une histoire qu'on garde au fond de soi, qui est une histoire qui nous a marqué, qui est une histoire d'avant, du passé, de l'adolescence, parce qu'on a été très, très heureux, même un court instant, ou très, très, très malheureux, même un court instant, et ça a marqué un moment de notre histoire. Peut-être qu'on l'idéalise, mais je trouvais ça intéressant d'essayer d'aller raconter ces moments-là, parce que je crois que finalement, quand on les partage, on se sent moins seul. Mais je vois très bien ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il y a un petit peu de love story. Et en même temps, ce que moi j'avais trouvé magnifique dans love story, bon, ça fait, je ne l'ai pas lu depuis très très longtemps, mais c'était la simplicité du mélodrame. C'est un livre très très pudique, love story. Et j'ai essayé, moi, dans ce roman, d'être aussi très très pudique par rapport à tout ce qui s'y passe.
Et alors, pour qu'une histoire d'amour soit réussie, il faut aussi de l'humour, de la légèreté, de la joie. On trouve ça ici, dans le livre, et en particulier, on découvre que même les homards peuvent être chargés d'une dimension, avoir une charge romantique. Ça, c'est une des grandes découvertes du livre, il faut le dire.
Oui, alors écoutez, je vais pas faire de spoiler. Et je
non, on fait pas... du teasing, voilà, simplement.
Mais effectivement, il y a une scène assez cocasse avec des homards. Non, mais aussi, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est que l'humour doit être omniprésent. D'abord parce que l'humour est omniprésent dans ma vie, c'est-à-dire que je ne pourrais pas imaginer vivre sans humour, sans autodérision, sans second degré... Et l'humour est omniprésent parce que les personnages ne sont pas du tout des personnages dramatiques et que finalement l'histoire ne l'est pas non plus. Ce sont des personnages qui sont bourrés d'humour. Il n'y a rien que j'aime plus chez quelqu'un que son humour. Parce que d'abord, l'humour, c'est quelque chose de très humble quand on y pense. La première qualité dans l'humour, c'est de savoir se moquer de soi-même, l'autodérision. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de tendresse dans l'humour, en fait. Elle le dit à un moment donné, je crois, Aube, dans le roman, à moins que j'ai coupé la phrase, mais elle dit, on est tous libres de choisir comment on réagit face à l'adversité, avec colère, avec tristesse, avec violence. Nous avons choisi l'humour.
Alors, il y a un thème, ça n'est pas la première fois qu'on le retrouve dans vos livres, mais là, qui est à nouveau très, très présent, c'est celui du lien père-fille. Il y a deux couples ici, père-fille, donc Hope et son père, Sam. Il y a aussi Mélie, ou Mélodie, qui est un autre personnage féminin qui surgit tout à coup dans le livre, et les lecteurs comprendront pourquoi, et son père, Harold. Pourquoi tournez-vous autour de ce lien entre les pères et leurs filles?
Parce que je trouve que c'est la relation filiale m'a toujours passionné. Je crois qu'elle nous définit beaucoup dans nos vies, soit par sa présence, soit par son absence, soit par son excès de présence. Mais finalement, on est très marqué par nos pères. Moi, j'ai grandi dans un lycée de filles, et donc j'avais beaucoup j'étais l'antithèse du séducteur. J'avais pas de petite amie, mais beaucoup de copines, et donc qui se confiaient. Et j'ai toujours été très impressionné par l'importance, le rapport qu'il y avait entre les filles et les pères. Le rapport père-fils est un rapport, je crois, plus pudique, beaucoup plus construit sur les non-dits. Il est tout aussi entier, il est tout aussi important. Mais le rapport père-fille, il est magnifique. Je trouve que dans les relations humaines, c'est quelque chose de très, très beau. Et j'en parle d'autant plus, de façon d'autant plus compétente que je n'ai pas de fille. Donc. Enfin, pas encore. Ça ne va pas tarder. Mais donc, c'est pour vous dire mon ignorance en la matière. Mais j'ai beaucoup regardé. Et d'ailleurs, j'ai été observateur de la relation, du lien père-fille entre mon père et ma sœur. Mais beaucoup autour de moi. Je trouve que c'est une relation magnifique et elle m'intéresse, elle m'a passionné. Et j'ai eu envie de l'écrire et je l'ai écrite plusieurs fois. Je l'ai écrite dans toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Je l'ai écrite dans d'autres romans. Et là, elle est très présente. Je crois qu'une fille est capable de dégoupiller n'importe quel père. Vous voyez ce que je veux dire par dégoupiller? Comme on dégoupille une grenade. C'est-à-dire que je crois qu'il y a quelque chose qui relève du sublime et du génie dans la relation père-fille. Et en même temps, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des relations père-fille dramatiques et qu'il n'y a pas des absences du père qui sont dramatiques.
Alors vous m'avez tendu la perche, donc bientôt papa d'une première fille, une première fois. Ce qui explique d'ailleurs, pour le préciser auprès de nos auditeurs, le fait que nous nous retrouvons ici à New York, c'est qu'évidemment l'arrivée de cette fille est imminente et que vous ne vouliez pas vous éloigner. Dans quel état est le futur papa ?
Très heureux, très heureux. Non, c'est vrai, merci d'ailleurs d'être venu jusqu'ici, mais compte tenu de cette imminence, je ne pouvais pas prendre le risque de partir aussi loin et de ne pas pouvoir revenir à temps. Écoutez, très heureux, voilà, enfin, extrêmement heureux. Voilà, ça y est, je vais avoir une fille, je suis foutu. Oui. Enfin, c'est mon meilleur ami qui m'a dit ça, qui m'a fait cette plaisanterie, qui m'a dit « Tu vas avoir une fille, t'es foutu ». Donc, lui...
Dégoupillé à votre tour.
Voilà, exactement. Non, mais c'est magnifique. Mon propre père disait « Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie que l'arrivée de la vie ?»
C'est formidable. La vie qui, quel que soit l'âge que l'on a dans cette vie, vous offre encore des premières fois.
Oui, exactement. C'est magnifique. Non, et puis ce qui est magnifique, c'est que je crois que ce qu'il y a... Une des choses les plus belles que l'on peut découvrir dans la vie, c'est que la vie vous paraît beaucoup plus longue dans le sens positif du terme, finalement, quand on se donne aux autres. Et évidemment, se donner à ses enfants, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Et faire pour les autres, c'est une source de bonheur intarissable. Le pire, je trouve, dans l'idée du temps qui passe, c'est qu'avec le temps qui passe, s'installe l'ennui. Vous voyez, où le désintérêt des choses, plus on se donne aux autres et plus on se consacre aux autres et plus la vie, extraordinairement d'ailleurs, à la fois passe vite dans le bon sens du terme et dure longtemps.
En tout cas, on souhaite une belle arrivée sur cette planète à Cléa.
Oui. Moi aussi, je touche du bois.
C'est ça, le prénom est déjà choisi.
Oui, exactement.
Merci, Marc Lévy. Et puis, ben, on souhaite bonne chance à... Non, ou alors, on ne dit pas ça. On dit merde, non ?
Oui, on dit.
Pour un livre aussi, ça peut se dire. Donc, merde à l'horizon à l'envers, chez Robert Laffont, Versilio.
Eh bien, merci beaucoup et merci à vos auditeurs.